C'est un sujet inépuisable pour la presse qui en est parfois victime d'ailleurs, l'espionnage. Et il est à la une du nouveau hors-série du Parisien, le Paris des espions, en partenariat avec Europe 1. Paris, théâtre de la trahison de Matahari, Paris, capitale de l'espionnage avec Berlin pendant la guerre froide, Paris, centre névralgique des services de renseignement français, dont l'activité a nourri les scénarii de plusieurs films et de plusieurs séries, dont évidemment le Bureau des légendes. Bonjour Bruno Fuligny.
Bonjour.
Vous êtes historien, auteur de plusieurs livres sur le renseignement, et vous signez plusieurs articles dans ce hors-série, dont l'un sur un service peu connu, dont j'ai découvert l'existence en lisant ces pages, dans lequel ce service, vous avez pu entrer, la DRSD. On va y revenir. Mais d'abord, quelle est l'histoire de Paris avec l'espionnage? Qu'est-ce que cette ville a de si particulier avec ce sujet?
Alors, Paris, bien sûr, c'est une capitale, donc c'est là que logiquement se trouvent les centrales, c'est-à-dire les sièges des services français. C'est là aussi où se trouvent les ambassades des pays étrangers. Dans toute ambassade qui se respecte, vous avez au moins un attaché de défense, un attaché militaire qui est un petit peu l'espion officiel, pour dire les choses rapidement. Et puis Paris, bien sûr, par son cosmopolitisme, par son mouvement, est un lieu rêvé pour dissimuler toutes sortes d'activités clandestines.
Pourquoi Paris plutôt qu'une autre capitale?
Oh, dans les autres capitales aussi, mais c'est vrai que Paris fait partie, avec Londres, avec Istanbul, des quelques villes qui sont les plus ouvertes au monde et où vous pouvez facilement, même en venant de très loin, passer inaperçu dans la foule, monter une association, une société qui peut être la berlue, c'est-à-dire la couverture, en fait le fauné d'une organisation clandestine. Donc il y a depuis longtemps à Paris des espions qui se croisent, entrecroisent aussi bien dans les quartiers chics que dans les quartiers populaires, parce qu'il y a aussi une histoire, comment dirais-je, un petit peu complexe entre les mouvements révolutionnaires, les mouvements subversifs et les services secrets, qui parfois trouvent malin de soutenir tel ou tel mouvement clandestin. Donc dans tous les recoins de Paris, bien sûr, on trouve des services secrets, des antennes, des postes. Et puis Paris, c'est aussi un merveilleux labyrinthe, avec ses passages couverts, avec ses immeubles à double entrée, avec ses grandes gares, avec ses musées. Idéal pour couper une filature, idéal pour se fondre dans la foule, idéal pour faire des rencontres discrètes. Au Père Lachaise, qui va s'intéresser à quelqu'un qui vient s'incliner devant une tombe? Mais peut-être qu'à côté de lui, il y a quelqu'un qui est là pour un rendez-vous secret.
Paris, capitale de l'espionnage, notamment pendant la guerre froide, c'était la capitale de l'espionnage avec Berlin. Et justement, l'un des événements marquants de cette période, la guerre froide, ce fut l'opération Farewell. Je vais essayer de la résumer. L'expulsion de 47 diplomates soviétiques accusés d'espionnage. C'était le 5 avril 83. À l'époque, c'était François Mitterrand à l'Élysée. C'était à la une de l'actualité alors. Europe 1 en parlait. Vous allez entendre le porte-parole de l'ambassade soviétique. Et avant lui, l'ancien correspondant d'Europe 1 aux États-Unis, Jean-Pierre Joulin.
Il y a deux ou trois jours, les services américains de renseignement ont été informés par les services français de contre-espionnage de l'expulsion imminente des 47 soviétiques et de leurs familles. Selon les services américains, ces soviétiques se livraient à des activités d'espionnage militaire. Ils avaient, ou ils étaient sur le point d'avoir accès à des secrets touchant aux technologies de pointe françaises dans le domaine des missiles antimissiles, dans celui de la défense antiaérienne la plus sophistiquée, de la défense anti-char, etc.
L'ambassade proteste vigoureusement contre la décision totalement infondée et arbitraire des autorités françaises. Il ne nous a pas été présenté aucun fait d'activité illégale de la part des collaborateurs soviétiques auxquels il est signifié de quitter la France.
On connaît bien la voix de l'ambassadeur. Pourquoi cette opération s'est nouée et dénouée, du moins en partie, à Paris?
Alors c'est un des grands succès des services de renseignement français, et c'est aussi un paradoxe, c'est un service de renseignement intérieur, l'ancienne DST, depuis absorbée dans ce qui est maintenant la DGSI, l'ancienne DST qui a traité un soviétique qui lui était à Moscou. Ouais. Alors, une affaire de renseignement extérieur traitée par un service de renseignement intérieur, là c'est un cas de figure assez unique, mais c'est pour ça que ça a marché. De quoi s'agit-il? Il s'agit au départ d'un officier de renseignement soviétique, Vladimir Vetrov, qui avait séjourné à Paris, qui avait beaucoup aimé son séjour à Paris, mais c'était dans les années 60, longtemps avant. Et puis ensuite, sa carrière avait mal tourné, il s'estimait un peu placardisé, il s'ennuyait à Moscou, mais il était quand même à la première direction du KGB, c'est-à-dire la direction qui s'occupait du renseignement extérieur soviétique. Et à partir de là, il renoue de façon discrète, intelligente, avec un contre-espion français qui comprend que Sovetrov a quelque chose à lui dire. Et donc une liaison va s'établir par la DST. Pourquoi la DST ? C'est très intelligent. Vetrov savait que les espions occidentaux en poste à Moscou étaient observés. Ouais. En revanche, personne n'imaginerait que la DST, dont le ressort est normalement circonscrit à l'Hexagone, pourrait le traiter, lui. Et pour des raisons compliquées, à la fois d'ego, à la fois politique, pour se venger de ce système soviétique qui n'a pas reconnu sa valeur, Vetrov va transmettre aux Français presque 3000 pages de documents secrets. Donc c'est une livraison colossale dans l'histoire de l'espionnage. Et surtout, on est à un moment où François Mitterrand vient d'être élu. Le 14 juillet 81, à la première garden party de l'Élysée mitterrandienne, le patron de la DST, très soulagé parce qu'il sait que la gauche veut supprimer son service, va voir Mitterrand et lui dit « Écoutez, on a une taupe au cœur du KGB ». Et Mitterrand comprend tout de suite l'intérêt. Il sait que les Américains se méfient beaucoup de lui parce qu'il a des ministres communistes. Il va voir Reagan, il lui explique et les informations françaises vont être transmises aux Américains. C'est ce qui va déclencher la fin de la guerre froide parce qu'on va se rendre compte à quel point l'Union soviétique est en retard. Elle dépend de la technologie occidentale qu'elle pille, d'où la guerre des étoiles. Il y a plein de choses qu'on n'a pas comprises dans les années 80 et qui viennent directement de cette extraordinaire affaire Farwell.
J'ai souri pendant que vous parliez parce qu'on entendait l'ambassadeur soviétique dire on n'a aucune preuve, vous disiez 3000 pages. Donc si 3000 pages, ce n'est pas une preuve, il y en a au moins deux ou trois quand même. Parmi les 47 soviétiques expulsés alors de France, il y avait deux journalistes, on est une émission média ici. Est-ce que les journalistes sont de bons espions, de bons agents de renseignement, ou au contraire, c'est trop voyant? Et là, c'est vous qui souriez.
Oui, c'est un peu voyant. La couverture de journaliste, bien sûr, elle est pratique, mais elle est trop facile. En revanche, un journaliste peut faire un bon agent d'influence, parce que dans l'univers des services de renseignement, il y a bien sûr la collecte d'informations et de renseignements, mais il y a aussi toutes sortes d'actions secrètes. Et parfois, un journaliste peut être sollicité ou rémunéré pour diffuser des informations favorables. C'est ce qu'on appelle un agent d'influence. Là, c'est beaucoup plus discret qu'un agent qui va à la pêche aux informations.
Paradoxalement, les journalistes font de bonnes cibles. Exemple avec les journalistes du Cadran Enchaîné, dont la rédaction se trouve au cœur de Paris, au centre de Paris. C'était en décembre 73, 22h15, quand un dessinateur du journal passe devant les locaux et il voit de la lumière derrière les fenêtres du Cadran Enchaîné, des bureaux qui est soi-disant, enfin pas qui soi-disant, qui à cette heure-là sont fermés.
Oui, c'est ce qu'on a appelé le Watergaffe, hein, puisque le ministre de l'Intérieur avait tenté par de faux plombiers de faire poser des micros pour savoir ce que préparait la rédaction du Canard. C'est l'exemple même de ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire l'utilisation d'un service de renseignement à des fins strictement politiciennes. Un service de renseignement, normalement, c'est pas fait pour ça. C'est fait pour garantir la sécurité de la nation, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. C'est pas fait pour maintenir une majorité en place. Mais parfois, la tentation est grande. Là, en l'occurrence, la majorité de l'époque l'a payé très cher. Et aujourd'hui encore, dans les locaux du Canard, le trou aménagé dans le mur par les plombiers existe toujours. Il y a une sorte de plaque commémorative à côté pour indiquer, de façon assez narquoise, comment les services de renseignement intérieur ont été piégés par le Canard.
Les plombiers, évidemment, des vrais faux plombiers qui étaient des agents. On continue de parler de l'espionnage dans Paris. Le Paris des espions, c'est ce supplément. Notre invité, c'est l'historien Bruno Fulini. On va parler de la Tour Eiffel, parce que si elle est là, c'est aussi parce qu'elle a pu servir, à un moment donné où on pensait la détruire, à des fins d'espionnage. Belle. En compagnie de l'historien Bruno Fulini, qui signe de nombreux articles dans ce Paris des espions. C'est le nouveau hors-série du Parisien qui sort aujourd'hui en partenariat avec Europe 1. Mais je vais vous dire, on n'aurait pas été en partenariat, on aurait quand même fait le sujet, parce que c'est absolument passionnant. 1000 histoires dans ce hors-série, l'une d'entre elles qui concerne l'espionnage, qui concerne aussi l'un des monuments emblématiques de Paris, sinon le monument emblématique, la Tour Eiffel. En forçant un peu le trait, on peut dire que c'est le renseignement qui l'a sauvé, la tour, de la destruction.
Oui, quand on me demande quelle est l'espionne parisienne la plus célèbre, je réponds toujours la Tour Eiffel. Alors évidemment, au départ, elle est construite pour l'exposition universelle de 1889, pour montrer un peu le génie français, mais elle n'a pas d'utilité particulière. C'est une exploitation touristique sur la base d'une concession de 20 ans. Ça veut dire qu'elle doit être détruite, démantelée en 1909.
Ça, je le savais, mais j'ignorais que les renseignements ont pris part dans cette non-destruction.
Grâce à un officier et un seul, un certain Gustave Ferrier. C'est un officier qui est très féru des technologies nouvelles de son temps, donc la transmission sans fil. Il s'intéresse aux travaux de Marconi, à toutes ces choses-là. Et alors qu'il est regardé un petit peu bizarrement par l'état-major, il dit, voilà, cette tour Eiffel qu'on doit démanteler, elle pourrait servir d'antenne. Elle pourrait nous servir d'abord à émettre, et il fait des expériences. Gustave Eiffel est très content de prouver que sa tour a une utilité. Il l'aide à financer, parce que l'armée ne met pas beaucoup d'argent là-dedans, trouve que tout ça c'est un peu bizarre, ces messages qu'on envoie sans fil, pourquoi faire, bon. Et donc il prouve qu'avec la tour Eiffel on peut envoyer des messages très très loin, mais aussi quand les autres se mettent à la TSF qu'on peut capter des messages. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette tour Eiffel va devenir un petit peu l'ancêtre de la NSA américaine aujourd'hui, c'est-à-dire que au moment de la Grande Guerre, entre 1914 et 1918, ça va être vraiment les grandes oreilles des Français. Elle va sauver Paris, parce qu'elle va permettre d'anticiper les bombardements de Zeppelin, même d'envoyer en allemand de fausses instructions aux pilotes des Zeppelins, donc ils vont larguer leurs bombes dans des champs de betteraves au lieu de les larguer sur les quartiers parisiens. Elle va permettre d'arrêter des agents, par exemple Matahari, et puis elle va permettre de glaner énormément d'informations. Ce qu'il faut bien voir, c'est que la tour Eiffel, à l'époque, en fait, outre la tour, il y a de grands câbles qui la relient au champ de Mars pour accroître la portée de l'antenne, et dans des baraquements, puis dans des installations souterraines, ce sont des milliers de personnes qui sont là pour écouter, pour envoyer des messages, pour en capter, y compris les messages codés qu'il faut chiffrer, décrypter, etc. Donc c'est une véritable fourmilière, et en fait c'est avec la tour Eiffel que naît vraiment le renseignement moderne, c'est-à-dire le renseignement technologique. Il ne suffit pas d'aller chercher des informations sur l'oreiller, il faut capter les télécommunications.
Au-delà de Matahari, justement, vous parlez de l'oreiller, le renseignement moderne pour le grand public, c'est la DGSE, qu'il est encore davantage connu depuis la diffusion du Bureau des légendes, la série excellente de Éric Rochant sur Canal+. Vous consacrez quelques articles à cette série dans le hors-série justement, et vous racontez à quel point les décors sont réalistes, ça n'a pas été simple.
Oui, parce que bien sûr, on ne peut normalement pas tourner dans les locaux de la DGSE, et bien sûr la série a été tournée à la Cité du Cinéma, en studio, sauf que le décorateur de la série a eu l'autorisation d'arpenter une partie des locaux de ce qu'on appelle le CAT, le centre administratif des Tourelles, ce que tout le monde appelle la piscine, c'est-à-dire la centrale de la DGSE boulevard Mortier. Et il n'avait pas le droit de faire de photos, il n'avait pas le droit de prendre de croquis, mais il avait une très bonne mémoire visuelle, donc il a tout observé, et à peine sorti, il a tout noté. Et en studio ont été reconstitués des locaux qui ressemblent tellement au vrai que les gradés de la DGSE, lorsqu'ils sont allés dans les studios, ont eu l'impression de retrouver leur bureau. La même moquette élimée, l'atmosphère un peu de caserne, même les petites étiquettes sur les ordinateurs ou sur les portes, tout est copie conforme.
Je précise que ça s'appelle la piscine, non parce qu'on y noie des gens, mais parce que c'est à côté d'une piscine. Le bureau des légendes, qui est considéré parfois présenté comme le plus secret des services secrets, mais il y a encore plus secret, écrivez-vous, c'est le scoop de ce hors-série, c'est la DRSD, la Direction du Renseignement et de la Sécurité de la Défense, est à Malakoff, près de Paris. Vous avez pu y entrer, le scoop que j'évoquais il y a quelques minutes, c'est celui-ci. Pourquoi la DRSD est-elle aussi discrète, secrète? On s'en doute un peu, et qu'avez-vous vu là-bas?
Alors la DRSD, Direction du Renseignement et de la Sécurité de la Défense, c'est le service de contre-ingérence des armées. Ils font un travail très spécifique et évidemment hautement confidentiel, puisqu'il s'agit de préserver tout le potentiel militaire, les hommes, les bases, les camps militaires, mais aussi toute l'industrie de défense, toutes les entreprises qui travaillent par exemple pour le nucléaire de défense, les préserver des ingérences étrangères. Quand vous avez un gradé qui tombe amoureux d'une orientale un peu trop belle pour lui, quand vous avez des demandes un petit peu curieuses sur les composants d'un objet technologique utile pour la défense, etc., immédiatement, l'un des 1523 fonctionnaires ou contractuels de la DRSD déclenche une enquête. Il y a 400 000 enquêtes par an pour préserver l'ensemble de notre potentiel de défense de ce qu'ils appellent les menaces TESCO. TESCO, c'est terrorisme, espionnage, sabotage, subversion, crime organisé. Donc on est là à un très haut niveau de sécurité et d'habilitation, à un très haut niveau aussi de discrétion. Et alors, il se trouve que leur centrale se trouve lui-même dans un lieu fortifié, ce qu'on appelle le fort de Vanves, même si vous l'avez dit, il n'est pas à Vanves, mais à Malakoff, juste à côté. Ce fort, c'est une fortification historique qui date du 19e siècle, qui n'a plus évidemment de fonction défensive aujourd'hui, mais qui est le siège ultra secret de ce service trop peu connu.
Et alors, ce que vous dites, c'est que ce service, la DRSD, recrute. Comment ça se passe ?
Alors, actuellement, de façon générale, les services de renseignement recrutent énormément. Le renseignement intérieur a accru en 5 ans ses effectifs de 33%. La DRSD recrute et, comme tous les services de renseignement, elle recherche en particulier des gens qui ont des compétences en informatique, en logistique et puis des linguistes, des traducteurs, en particulier des gens qui maîtrisent les langues rares, les langues orientales. Mais rien que la DRSD, ce sont plusieurs centaines de personnes qui sont recrutées chaque année et avec évidemment un processus très sélectif, hein, les candidatures spontanées ne sont pas forcément retenues, très sélectif, il y a des entretiens, il y a un entretien avec un psychologue et puis il y a une enquête, puisque pour travailler à la DRSD déjà, quel que soit votre travail, quel que soit votre niveau, il faut être habilité secret défense, c'est voilà. Le viatique indispensable. Donc ça suppose une enquête sur vous avant que vous puissiez enquêter sur d'autres.
Et puis grâce à un dossier de la police secrète Bruno Fuligny, vous avez fait une découverte et un nouveau livre.
Oui, alors ça n'est pas dans le hors-série, merci d'en parler, c'est effectivement, j'ai découvert une fille cachée de Napoléon grâce à un rapport adressé à Fouché et à un ensemble de documents. Donc vous voyez que les services secrets, c'est très riche en histoire humaine aussi, en histoire extraordinaire.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous, je vais donner le titre quand même de ce livre, il s'appelle La fille de Napoléon, c'est aux Arènes l'éditeur, et puis Histoire de Paris, supplément du Parisien, Le Paris des espions, c'est sorti lundi, c'est le numéro 14 déjà de ces suppléments. Merci beaucoup d'avoir